Salut à toutes et à tous, ici Zeni pour le 15e épisode du Poké Freak Show. Hey, dites, vous vous souvenez de l'épisode sur Morpheo? Oui, celui où je vous faisais découvrir que la forme d'une molécule pouvait être une source d'inspiration pour des Pokémon. Vous vous souvenez de l'intro où je vous faisais un peu l'historique de Pokémon Ruby et Saphir? Eh bien, je vous propose de nous replonger un peu dedans, parce qu'il y a une innovation dont nous n'avions pas beaucoup parlé à ce moment-là. Alors si vous vous souvenez bien, nous avions bien insisté sur le fait que les deux jeux sortis sur Game Boy Advance en 2002 étaient pas mal novateurs. Et c'est normal quand on connaît leur genèse. Nouvelle équipe, nouvelle ambition et nouvelles expériences étaient la principale ressource de ces jeux. Du coup, c'est normal qu'autant de nouveautés aient été introduites dedans. Nous parlions de l'introduction de la météo dans Pokémon, chose qui s'est étendue au fil des générations suivantes avec les 4 saisons dans Noir et Blanc par exemple. Mais nous pourrions aussi parler de l'amélioration de l'élevage, un travail plus important au niveau des PNJ ou tout simplement les graphismes. Ruby et Saphir proposaient un design vif et dynamique qui répond parfaitement à ce qu'on peut attendre d'une région aux 1000 décors et aussi proche d'une atmosphère aussi naturelle que ce que nous proposait Hoenn. C'est un énorme bond en avant par rapport à Or, Argent et Cristal, et nous garderons une charte graphique assez similaire jusqu'à notre aventure à Unis. Bref, Ruby et Saphir ont énormément marqué l'histoire de Pokémon, et son objectif d'être une continuité de la folie de la Pokémania fut assez bien accompli. Mais il n'empêche que la com de ces jeux ont énormément tourné autour d'un autre aspect du mécanisme, si bien qu'au fond, on pouvait l'attendre juste pour ça, et ici, nous allons parler des combats doubles. Depuis Rouge et Vert, Game Freak a toujours mis un point d'honneur sur les interactions entre les joueurs à travers les câbles Link. Grâce à ce petit appareil que Satoshi Tajiri a dépoussiéré pour ce jeu, on pouvait échanger et combattre nos amis en reliant nos Game Boy avec. Bon, aujourd'hui on a le Wi-Fi sur les consoles, donc cela nous paraît aujourd'hui pas mal archaïque. Mais à l'époque c'était totalement novateur. Game Freak a toujours essayé de tourner ses jeux autour des interactions entre joueurs, du moins au début. On se souvient du petit adaptateur sans fil vendu avec Rouge Feu et Vert Feuille qui permettait de jouer entre amis sans fil, et on pourrait également parler de la première tentative de connexion à internet pour Pokémon qui date de Crystal, donc en l'an 2000. Et ouais, vous le saviez pas ça? Mais là, nous allons plutôt parler de ce que voulaient proposer Ruby et Saphir. Parce que ce jeu proposait tout simplement une nouvelle manière d'interagir avec ses amis. En effet, depuis la 3ème génération, on peut combattre avec eux lors de combats doubles, à savoir des combats qui opposent deux Pokémon contre deux autres. Cette idée nous était apparue dans l'animé et donnait pas mal envie. Du coup, Game Freak proposa cette nouvelle interaction dans le jeu où on peut affronter deux sœurs jumelles en même temps, par exemple. Mais aussi grâce à un nouveau gadget, un câble Link 4 entrées. Jouer sur console portable avec 3 de nos amis, c'est plutôt cool comme spot publicitaire, et c'est clairement ce qu'on retiendra le plus de cette génération. Le combat double et cette nouvelle interaction dans Pokémon ont particulièrement marqué les joueurs, bien plus que grâce au concept de jouer avec plus d'amis. Et pour cause, cette nouvelle manière de combattre nous a donné un nouvel éventail de possibilités stratégiques en combat, et c'est pas pour rien si la norme des principaux tournois officiels de Pokémon aujourd'hui tourne autour du combat double. Car en plus de cette nouvelle manière de combattre, Game Freak a également ajouté tout un panel de nouvelles attaques comme coup de main qui permet d'interagir avec son coéquipier, ou tout simplement le mécanisme qui a été retravaillé. Exemple tout con, on a des attaques qui peuvent toucher les deux adversaires en même temps, voire même ses adversaires plus son coéquipier, tout comme on a des attaques où il faut choisir qui on touche. Ça paraît totalement bête, mais fallait y penser. Bref, on avait ici des combats un peu similaires à ce que nous proposait Final Fantasy à l'époque. Et du coup, à l'instar de la météo que j'ai décrit en détail sur l'épisode sur Morpheo, l'arrivée de ce nouveau mécanisme a eu un impact dans le bestiaire de Ruby et Saphir. Parce qu'avec ces combats doubles, Game Freak s'est ouvert une porte à un nouveau style de Pokémon pour la 3ème génération, à savoir les Pokémon complémentaires. On avait déjà timidement ça dans les générations précédentes avec Kabuto et Amonita ou Noctali et Mantali, mais dans la 3G, c'est l'explosion. En gros, j'ai compté 14 duos complémentaires dans cette génération, et encore, je compte que pour un, les familles. Ces duos, ça va de la simple polarité plus et moins que nous proposent Negapi et Posipi, ou les deux familles de Chenipot qui nous mènent à Charmeleon et Papinox, jusqu'aux Pokémon légendaires Latios et Latias, ainsi que Kyogre et Groudon. Car au fond aussi, les duos de légendaires sont arrivés dans la 3G, alors que depuis nous avons ça dans chaque génération, dans les deux premières c'était pas vraiment le cas. Nous ne pouvons pas vraiment dire que Mew et Mewtwo ou Ho-Oh et Lugia ont la même complémentarité que Xerneas et Yveltal ou Dialga et Palkia par exemple. Dans tous les cas, autant de duos de Pokémon avaient le but de promouvoir les combats doubles. Et la 5ème génération a fait plus ou moins la même chose avec les combats triples, mais on en parlera plus tard. Et du coup aujourd'hui, je voulais vous parler de l'un de ces 14 duos. Aujourd'hui, nous allons parler de deux Pokémon qui, quand on les découvre, nous paraissent rigolos et au mieux fun. Mais une fois que nous voyons toute l'étendue de la 3G, nous pourrions nous dire que c'est peut-être le duo de trop, celui qui décrédibilise totalement ce concept de Pokémon avec une synergie parfaite. Et puis, il est fort à parier que de toute façon, vous les avez sans doute oubliés. car aujourd'hui je vais vous parler de deux Pokémon insectes, à savoir le Pokémon numéro 313, Mussiole, et le Pokémon numéro 314, Lumivole. Mussiole et Lumivole sont donc deux Pokémon de type insecte de la 3ème génération. Et vous l'aurez peut-être compris en entendant ces deux noms, ces deux Pokémon s'inspirent clairement de Lucioles. Mais des Lucioles de 70 cm, ce qui est plutôt grand, et sans doute disgracieux. Enfin, on aime bien les Lucioles parce que c'est des insectes tout petits qui font de la lumière au bord des étangs. Du coup, vous imaginez la même chose, mais de la taille d'un chat. D'autant que vu leur apparence, j'aurais dit que c'était plutôt de gros bourdons avec une coiffe rouge ou violette. Cela peut déjà vous donner une idée de pourquoi ce duo est un peu boudé. Bien qu'ils soient complémentaires, ils ont tout de même une différence à noter. Les Mussioles sont exclusivement masculins, tandis que les Lumivoles sont exclusivement féminins. Et en réalité, ils ont le même lien que le duo Nidoran par exemple, c'est-à-dire que dans le jeu, un œuf de Lumivole peut donner un Mussiole ou un Lumivole. L'un est le sexe opposé à l'autre en fait, donc au fond c'est la même espèce. C'est juste que leur différence d'un sexe à l'autre est très prononcée. Au niveau des différents Pokédex, on nous met bien en avant un truc assez évident quand on connaît un minimum les Lucioles, ces deux Pokémon produisent de la lumière. Mais c'est dans leur comportement qui se différencie de leur modèle. On nous dit que les Mussioles produisent des figures géométriques et communiquent entre eux grâce à la lumière qu'ils produisent, tandis que les Lumivoles, eux, peuvent contrôler ce que disent les Mussioles. Est-ce que ça veut dire que le monde des Mussioles et des Lumivoles dessine une société matriarcale? C'est d'autant plus poussé quand on nous dit que les Mussioles sont attirés par les doux parfums des Lumivoles. En bref, la complémentarité de ces deux Pokémon est prononcée jusqu'à leur description. C'est simple, l'un est mentionné dans toutes les entrées du Pokédex de l'autre, au cas où on n'ait pas bien remarqué leur ressemblance. En gros, c'est deux Pokémon qui existent pour l'autre et qui forment un vrai duo pour pouvoir créer des spectacles de lumière aux humains. Même si au niveau de la luminosité des Lumivoles, rien n'est dit, sauf dans l'animé, on peut imaginer que l'un commande, tandis que l'autre produit de la lumière, ce qui est un duo plutôt bien fonctionnel. Mais bon, on va pas se le mentir, ça reste de très gros insectes qui produisent un peu de lumière. Du coup, je sais pas si le spectacle en vaut la chandelle. En vrai, il y a peu de Pokémon qui ont autant leur place dans ce podcast que Mussiole et Lumivole. Comme je l'ai dit, on peut les considérer comme le duo de trop de la génération. Déjà parce que stratégiquement, on a vu mieux, tant qu'ils sont seuls dans leur lignée évolutive respective, et puis on a un goût d'inachevé dans ce duo. En effet, ce sont des Pokémon Lucioles. Les seuls Pokémon Lucioles de Pokémon. Et pour rappel, en anglais, Luciole se dit Firefly. Pourtant, ils sont exclusivement de type insecte. De la part d'un Pokémon Luciole, on aurait pu attendre un double type feu, électrique ou rien que vol. Mais non, ils ont juste un seul type. Alors, est-ce là une manière pour Game Freak de nous notifier que la lumière d'une Luciole est une lumière naturelle issue du photophore dans l'abdomen de ces insectes? Alors je pense pas parce que Loupio et Lanturne, eux, sont bien électriques alors que c'est le même système. Pour moi, c'est juste qu'ils ont eu du mal à se mettre d'accord et que l'absence de double type était, selon Game Freak, le meilleur compromis. Dans tous les cas, on a deux grosses bébêtes, d'apparence, sans intérêt. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, physiquement, c'est pas le top non plus. Mussiole et Lumivole ont quand même beaucoup trop de détails. Commençons par Lumivole. Elle possède deux antennes jaunes, des yeux bleus et une sorte de coiffe carrée violette, avec des brassards violets, un crâne noir, un ventre bleu et une sorte de collier jaune. Elle possède aussi des petites ailes et trois triangles jaunes en bas du dos, qui pourraient être sa source de lumière. Mussiole, quant à lui, a de plus longues antennes et un ventre plus rond qu'il met bien en avant. Il possède aussi une coiffe rouge qui longe sa nuque, un corps noir, des rayures jaunes et bleues sur son ventre, une queue jaune luminescente et de plus grosses ailes. Alors du coup, qu'est-ce que tout cela signifie? Il y a bien un sens à tout ça. Mais s'il existe un sens, c'est sans doute pas l'amour. Pourtant, on a tendance à penser que les Lucioles sont symboles de l'amour, et qu'en faisant un duo avec un sexe différent, ça serait l'illustration parfaite d'une relation hétérosexuelle. Mais à la fois, bah, ça s'arrête là. Beaucoup trop de symboles nous éloignent de cette thématique-là. Du coup, on pourrait se demander... Game Freak s'est planté dans sa volonté de faire des Pokémon de l'amour? Ou alors, les thématiques de Mussiole et de Lumivole ne sont pas du tout l'amour? C'est un postulat intéressant. Je vous propose du coup d'analyser ces multitudes de détails et de checker les origines de Mussiole et de Lumivole. Alors pour commencer, je l'ai suffisamment répété, la principale source d'origine de ces deux Pokémon, c'est les Lucioles. Et plus précisément, il pourrait s'agir de Genji Botaru, une espèce possédant également une nuque rouge vive et qui vit exclusivement au Japon. Et c'est intéressant déjà parce que Hoenn s'inspire de Kyushu, une île japonaise au sud de l'archipel, et surtout parce que les Lucioles ont un traitement assez particulier là-bas. En effet, un peu à l'instar de l'éclosion des cerisiers, la danse des Lucioles est un véritable spectacle estival auquel il faut assister. C'est vendu comme un moment magique, et de nombreux villages font du tourisme autour du festival des Lucioles. Même si cette signification a dévié vers effectivement un symbole de l'amour, il représente aussi tout simplement des jeux de lumière et surtout un spectacle. Et comme l'a montré le Pokédex, c'est bien le but de Musiole et de Lumivol. Leur harmonie crée un spectacle, un véritable jeu de lumière. Donc peut-être qu'il faut rester sur cette piste pour trouver quelque chose. De plus, pour en finir avec cette thématique visiblement erronée de l'amour, il faut aussi savoir que les Lucioles ont une vision de l'amour assez chelou. En effet, les femelles attirent les mâles en leur envoyant un signal lumineux pour accepter de se faire ken, et c'est tout. Elles notifient leur acceptation de se faire pécho, et c'est plié. Sauf que ce signal lumineux est facilement copiable, et notamment par certaines lucioles qui cherchent juste à attirer des espèces plus faibles pour pouvoir en faire un casse-dalle. En bref, la luciole mâle reçoit une invitation de fécondation, et au final, il finit tragiquement dévoré. L'amour chez les lucioles, très peu pour moi, c'est joli à voir, mais quand on sait ce qui s'y passe concrètement... Bref, analysons tout le reste. Ce qui ressort beaucoup des différents Pokédex, et du coup ma première hypothèse sur le sens de tous ces détails, c'est que Musiole et Lumivol auraient la stature de pilote. En effet, on nous dit que les Lumivol contrôlent les Musioles pour qu'ils forment des figures géométriques, donc Musiole serait en quelque sorte des avions, et Lumivol la tour de contrôle ou un truc du genre peut-être. C'est assez en accord avec leur tenue noire et leur coiffe qui fait pas mal casque de pilote je trouve. Mais ce qui ressort c'est surtout que l'espèce masculine semble pas mal soumise à l'espèce féminine. Comme le dit Pokémon Ruby, Lumivol peut attirer un essaim de Musiole grâce à son doux parfum. Une fois les Musioles rassemblées, ce Pokémon dirige cette nuée lumineuse et lui fait dessiner des figures géométriques dans la nuit étoilée. Et Saphir en rajoute une couche en disant que ce Pokémon gagne le respect de ses pairs en composant des figures complexes dans le ciel. En gros, ça dit implicitement que plusieurs Musioles dépendent d'un seul Lumivol et qu'à l'inverse, Lumivol a la charge de plusieurs Musioles. Est-ce qu'on est là face à un système polyandre ? Ça s'apparente bien au système chez les abeilles et les fourmis, donc pourquoi pas. La société derrière ces deux Pokémon est clairement matriarcale, avec une espèce qui dirige plusieurs individus. Mais on pourrait dégager plus de choses bien au-delà de cette complémentarité. Les Lumivoles sont plus solidaires et indépendantes, tandis que les Musioles vivent et agissent en meute. Est-ce que du coup on peut tirer quelque chose de tout ça, en rapport avec le design de chacun de ces deux Pokémon ? Et la réponse est... oui. Nous l'avons dit, ces deux gros insectes ont beaucoup trop de détails sur eux, tellement qu'il est impensable d'imaginer que ça a été fait au hasard. Et effectivement, dans sa section Origin, Bulbapédia fait des comparaisons assez intéressantes entre Musiole et Lumivol et des tenues vestimentaires de certaines sous-cultures du XXe siècle. Pour commencer, le site compare Lumivol à un look appelé Flapper aux USA, ou tout simplement à la garçonne, pour utiliser un terme bien sexiste de chez nous. En gros, ça désigne un style féminin apparu dans les années 20, qui consistait à s'assumer comme une femme libre et indépendante, en portant une coupe au carré et une tenue provocante pour l'époque, et promulguant un style de vie bien loin des hommes. C'est un peu le féminisme du début du siècle quoi. Et du coup, on pourrait retrouver des signes distinctifs sur Lumivol, qui appartient aux Flappers, que ça soit effectivement la coupe au carré, et une tenue qui pourrait ressembler à un collant avec une veste noire. De plus, les traits sur son ventre et son espèce de collier pourraient faire penser à des tenues propres de l'époque, à savoir une gaine et un col Claudine. Et si vous savez pas ce que c'est, tapez Col Claudine sur Google. Au passage, je suis aussi pas mal convaincu que sa coloration violette soit aussi liée à l'émancipation des femmes, mais je crois que je me fie à un féminisme beaucoup trop anachronique pour 2002. Du coup, en soi, cette comparaison est bien vue. Effectivement, Lumivol pourrait être un flapper en luciole. Le comportement indépendant et au-dessus des hommes qu'on a décrit plus tôt colle parfaitement avec. Mais quid de Musiole ? Comme le propose encore une fois Bulbapédia, Musiole pourrait s'apparenter à un style qui est apparu plus tard dans les années 50, un peu partout dans le monde. C'est un style qui porte un nom différent dans chaque pays, à savoir Greaser aux USA, Bosozoku au Japon, ou les Blousons Noirs en France. En gros, c'est des types très rock'n'roll qui se déplacent en meute en moto, et qui a lancé le courant musical des yéyés en France. Ils portent toujours un blouson noir, d'où le nom, remontent leur col et portent une banane excentrique. Alors on pourrait effectivement retrouver ces trois éléments sur Musiole. Perso, je suis pas tout autant convaincu là-dessus que pour Lumivol. Je pense que le comparer à un dandy du début du siècle avec une belle fourrure marcherait aussi. Mais le fait qu'il se déplace en meute fait effectivement pencher la balance vers cette origine-ci. Du coup, on peut établir ceci. Lumivol pourrait venir des Flappers et Musiole des blousons noirs. En fait, ces deux styles, on les retrouve plus ou moins sur les deux protagonistes du film Grease, film de 1978 avec John Travolta et Olivia Newton-John, où t'avais un choc entre ces deux cultures dans un lycée américain. Donc, est-ce que au fond, Musiole et Lumivol restent tout de même un duo de l'amour désigné par quelqu'un qui a vu le film la veille, et qui se serait dit que ce serait cool d'en faire des Pokémon ? Et donc, concrètement, Gris serait une source d'inspiration à Pokémon ? Pour vous rassurer, j'ai une autre théorie. En fait, après quelques recherches croisées, j'ai remarqué que le point commun entre les Flappers et les Greasers, c'est que c'est deux styles totalement urbains. Ou en tout cas, ils ont pris naissance dans deux urbanismes de deux époques bien distinctes. Le look à la Gerson est né dans le Paris de la Belle Époque, tandis que les blousons noirs ont émergé dans les quartiers underground des grandes villes. Donc au fond, il pourrait s'agir des stéréotypes parfaits des deux sexes assignés dans une grande ville au cours du siècle dernier, ce qui pourrait alors dire, de par les comparaisons de Bulbapédia, que ce qui se cacherait derrière nos amis Mussiol et Lumivol, c'est une thématique liée au monde urbain. Ça semble pas mal évident finalement, et ça permet de bien recentrer nos recherches pour la suite. Mais bon, ça pose tout de même des questions du genre, pourquoi tout simplement avoir choisi des lucioles pour proposer cette thématique? Y avait pas mieux en stock, genre un gros rat d'égout ou un pigeon par exemple? En fait, s'ils avaient pris ces deux animaux-là, ça n'aurait pas eu la même signification en fait. Car en réalité, le choix des lucioles rend cette thématique encore plus profonde. En effet, on a plutôt tendance à penser que les lucioles appartiendraient plutôt au monde rural. Faut dire aussi qu'on en voit pas trop en ville, et qu'on a plutôt l'habitude de voir ces insectes volant au bord d'un étang. Et puis les festivals de lucioles dont j'ai parlé plus tôt qui prennent place au Japon sont plutôt des spectacles proposés par des petites villes, vous n'en verrez pas vraiment à Tokyo quoi. Donc au fond, avec cet habitat naturel, il n'y a pas plus rural comme insecte que les lucioles, c'est l'insecte qui retranscrit le mieux toute la tranquillité et la paisibilité qu'on peut obtenir loin des villes. Mais paradoxalement, dans son essence, je pense qu'il y a peu d'insectes qui fait autant citadin que les lucioles. Attendez, quelle est la première chose qui vous passe en tête quand on vous dit luciole? La lumière, bien sûr. Et quel mot vous passe en tête quand on vous parle de la vie nocturne dans les grandes villes? Sans doute la lumière aussi. Et une lumière pas mal abusée même. Les lucioles produisent de la lumière tout comme les grandes villes. Et c'est d'autant plus vrai au Japon, où on pourrait se croire en plein jour si on parcourt les rues de Tokyo la nuit. En bref, comme nous l'avions évoqué plus tôt, les lucioles, c'est pas vraiment un symbole d'amour. Mais si on analyse tout ça à 30 secondes, il pourrait s'agir de l'insecte qui symbolise le mieux l'union entre le monde rural et le monde urbain, entre la tranquillité d'une belle nuit d'été au bord d'un lac et le dynamisme d'une ville. Et Mussiol et Lumivol symbolisent le mieux ça, que ça soit dans leur design comme dans leur comportement en fait, soit d'une femme indépendante, soit de motard bruyant. Ça semble déjà parfaitement bien collé. Et vous voulez encore une preuve? Eh bien cette thématique était déjà au cœur de la région d'Oen. Nous avons souvent décrit ici Oen comme une région rurale aux mille paysages. Il y a un désert, des plages, une jungle, et même un volcan en activité. C'est une région plutôt chaude, mais la nature y prend une place très importante, si bien que la plupart des villes que nous visitons proposent un concept intéressant, à savoir des villes qui s'adaptent à leur décor. Ce ne sont pas des villes construites sur la déforestation et placées ici et là de manière aléatoire, non. Mais au contraire, chaque ville semble s'être adaptée au milieu naturel dans lequel elle s'est construite. Nous pouvons citer par exemple Simetronel où les habitants ont construit de grandes cabanes au sommet des arbres, Vermilava qui a été construit sur le flanc du volcan et dont la principale attraction c'est les sources d'eau chaude, ou encore Atalanopolis qui est littéralement une ville construite dans un cratère. Je crois qu'aucune autre région dans la licence Pokémon ne propose des lieux aussi uniques qui s'adaptent autant à leur décor et où le respect de la nature mise en place est autant respecté. C'est simple, à Oen, l'urbanisme s'est adapté à la nature. Et au fond, Mussiol et Lumivol, c'est l'inverse, c'est des insectes ruraux qui se sont adaptés au monde urbain et ayant pris un style vestimentaire et de vie plus proche de la ville. C'est comme si c'était des Pokémon qui s'étaient mués suite à l'arrivée des humains pour pouvoir s'adapter à ce nouvel environnement. Et si vous vous souvenez de mon épisode sur Papylord, vous devriez vous souvenir que les insectes s'adaptent plutôt très rapidement à leur environnement. Donc Mussiol et Lumivol sont des éléments de la nature qui se sont adaptés au monde urbain, là où Oen est une région où l'urbanisme s'est adapté à la nature. Et vous voulez une preuve ultime à tout ça? On retrouve Mussiol et Lumivol exclusivement sur la route 117 à Oen, juste à côté d'une ville appelée Lavandia. Et Lavandia, c'est justement la ville la plus underground de Oen. Dans cette ville, au cœur de la région, on retrouve un casino, une arène spécialisée dans les Pokémon électriques, et le scénario nous évoque même des projets d'urbanisme très ambitieux, avec le projet d'une ville souterraine, appelée New Lavandia. Un projet qui d'ailleurs n'a jamais vu le jour à cause des Pokémon autour qui s'y opposaient, donc encore une fois, la nature qui prend le pas sur les plans des humains. Et le concept de cette ville prend même une autre dimension de le remake de 2014, Ruby Omega et Saphir Alpha. Dans ces deux nouveaux jeux, Lavandia prend la forme d'une sorte de centre commercial et communal géant et à la pointe de la technologie, jumelé à Illumis, la capitale de Kalos. En bref, Lavandia est la ville la plus urbaine de tout Oen, donc c'est naturel que son aura underground ait débordé vers les routes autour, dont le milieu naturel de Petite Luciole, dont la nature lumineuse fait qu'elles peuvent avoir envie de s'adapter à ce nouvel endroit. En bref, Mussiol et Lumivol sont deux Pokémon très intéressants quoi qu'on en pense. créé parmi tous les duos complémentaires, au point de passer inaperçu entre les duos Graiena et Linéon, ou Polichon, Brisk et Lennox par exemple. Et quand on les observe dans un premier temps, on pourrait penser illico qu'il s'agit juste d'une très mauvaise représentation de l'amour. Mais au fond, ils symbolisent plutôt un amour désintéressé des grandes villes, très city pop. Et leur mode de vie semble plutôt décrire deux espèces qui s'entraident en suivant leurs fonctions naturelles, plutôt que vraiment deux Pokémon juste amoureux. Et puis nous l'avons vu, ils symbolisent aussi et surtout l'union entre le monde rural et le monde urbain. Et la région de Hoenn et ses créatures nous permettent de découvrir que l'un peut apprendre de l'autre. Alors ok, le résultat donne un Pokémon pas mal oubliable avec un design pour le moins disgracieux, et je suis au fond toujours pas convaincu par leur spectacle. Après, peut-être que si on s'éloigne, ça peut passer. Enfin bref. De toute façon, nous avons aussi pu voir que ce design d'apparence trop riche cache un sens caché, et chaque petit trait de leur habillage nous mène vers une nouvelle page Wikipédia. Dans tous les cas, et avec toutes les thématiques qu'ils dégagent, Musiole et Lumivol sont sans doute les Pokémon qui symbolisent le mieux la région de Hoenn, et c'est pour ça qu'on les aime. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'avoue que quand j'ai eu l'idée de faire un épisode sur ces deux-là, je pensais juste vous parler des duos complémentaires, et pas à cette conclusion. Et du coup, bah, j'en suis plutôt satisfait, et je me demande même si, tout comme la thématique de Noir et Blanc, nous pourrions pas trouver cette confrontation entre le monde rural et le monde urbain chez d'autres Pokémon de la 3G. Si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de chercher ça de votre côté et de me parler de l'aboutissement de vos recherches en commentaire. Vous pouvez d'ailleurs aussi me dire si votre vision de Musiole et de Nuivol ont changé grâce à cet épisode, mes mentions sur le Twitter sont ouvertes. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas dessus, comme je l'ai dit là-bas, le dernier épisode de la saison aura lieu le 11 juin prochain, ce qui veut dire qu'il reste désormais 4 épisodes avant les vacances. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai vous parler de Pokémon sur les ondes de Radio Kawa en septembre prochain, avec une saison 2 bien plus travaillée et quelques idées que je garde encore pour moi pour le moment. Pour le reste, vous connaissez la chanson, le Pokéfreak Show est une émission produite par Radio Kawa et réalisée par moi-même, et n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast favori ou de laisser un don sur le Patreon du réseau, ceci afin de nous permettre d'obtenir du matériel de meilleure qualité et de vous proposer de nouveaux lives. En tous les cas, je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Ciao!
Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @radiokawa, RADIOKAWA. Et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawa.com, comme radiokawa.com, sans le point, RADIOKAWACOM. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications.
Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou,
c'est moi,
dissèque un élément d'un jeu vidéo,
un signe vidéoludique,
et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid,
le score dans le premier Megaman,
le choix dans The Stanley Parable,
la difficulté à rebours dans Braid.
Autant de raisons d'écouter ludographie comparée sur Radio Kawa.